Chaque jour à midi, la Grande Table par Olivia Gesbert.
Toute l'actualité de la culture et des idées, à l'heure du déjeuner, des rencontres plaisir, des livres coup de cœur, des penseurs positifs et d'autres qui nous alertent, je vous attends en direct ou en podcast sur franceculture.fr.
Prix Pulitzer 2018 pour L'Es, en France, les tribulations d'Arthur Miner, périple littéraire, sentimental et humain autour du monde sur le mode de la comédie. Le romancier américain Andrew Sean Greer, invité ce vendredi de la Grande Table, avec en seconde partie, pour les lois du marché amoureux, le regard du philosophe François de Smet. La Grande Table, ce vendredi dès midi et sur franceculture.fr.
Vous écoutez donc France Culture, il est 6h03, nous retrouvons Toufik Hakem, c'est vendredi, et nous parlons donc bande dessinée.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée dans le réveil culturel. Bonjour tout le monde. Les éditions Moulinsart viennent de publier donc une réédition numérique de la version originale de Tintin au Congo, en la coloriant comme cela a été fait pour Tintin chez les Soviets. Mais Casterman, l'éditeur historique et exclusif des bandes dessinées de Tintin en version papier, n'a pas souhaité participer à la réédition de cet album controversé d'Hergé, en tout cas pas sans mise en garde. Alors ce n'est pas la première fois qu'il y a une tension et une mésentente entre d'un côté la maison Moulinsart, gérée par les ayants droit d'Hergé, Fanny et Nick Rodwell, la veuve d'Hergé et son mari, et d'autre part la maison Casterman passée sous le giron Gallimard. Ce n'est pas non plus la première affaire Tintin au Congo, cette œuvre problématique d'Hergé a provoqué depuis sa parution des polémiques, des procès, des débats. Et la question aujourd'hui est de savoir comment et par quoi l'époque actuelle habille ou nourrit cette vieille polémique. Spécialiste de la bande dessinée franco-belge et chef de service du Soir de Bruxelles, Daniel Couvreur est mon premier invité. Et en tant que journaliste, il saura contextualiser depuis la Belgique cette nouvelle réédition problématique décidée par les éditions Moulinsart. Mon deuxième invité est le dessinateur Jules, qui à partir de cette affaire Hergé s'interroge d'une façon plus générale sur la représentation des Noirs d'Afrique ou des Noirs d'Amérique dans les autres bandes dessinées à succès de la même époque que Tintin ou peu après, par exemple, dans Astérix ou Lucky Luke. Jules, pour rappel, est le scénariste des deux derniers Lucky Luke. Il est aussi le scénariste des deux prochains Lucky Luke, c'est déjà signé. Et on écoutera aujourd'hui Hergé, bien sûr, Hergé en 79. Revenez sur cette épisode de Tintin au Congo dans une interview à la radio belge. Le réveil culturel est préparé par Corinne Amar, réalisé par Vincent Abouchard, avec aujourd'hui la prise de son Marie Le Peintre.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Daniel Couvreur, vous êtes rédacteur en chef du service culture du quotidien Le Soir de Bruxelles. Vous êtes spécialiste de bande dessinée, vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment autour d'Hergé. Est-ce que vous pouvez nous résumer cette nouvelle affaire de Tintin au Congo ?
Alors, Tintin au Congo, c'est un album qu'Hergé a créé, une histoire plus qu'un album. Il a d'abord créé l'histoire dans Le Petit Vingtième à partir de 1930. L'album est sorti en 1931 en noir et blanc aux éditions du Petit Vingtième. Ça, c'est donc l'édition originale de Tintin au Congo. L'histoire qu'on connaît aujourd'hui, que la plupart des gens ont lu, c'est évidemment la version couleur qui, elle, date de 1946 et qui a été réaménagée. Elle compte moins de pages, elle a été recoupée, en partie redessinée, et certains phylactères ont été évidemment modifiés. Par Hergé, du vivant d'Hergé, tout ça, bien entendu. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on ressort l'édition de 1930 qui était encore disponible en fac-similé en noir et blanc, mais on la ressort en version colorisée, comme ça s'était produit pour Tintin au pays des Soviets, qu'on a mis en couleur aussi. Et bien maintenant, il y a un programme de mise en couleur qui vise à mettre les albums originaux d'Hergé d'avant-guerre, qui étaient tous noir et blanc, en couleur. Et donc, on a colorisé Tintin au Congo, version 1931.
Le problème, c'est que cet album pose des problèmes et qu'Hergé lui-même avait plus ou moins regretté d'avoir fait cet album avec les idées qu'il avait à l'époque.
Alors évidemment, il a regretté ça beaucoup plus tard, puisque en 31, on est encore en pleine gloire coloniale. Le Congo est toujours belge et en fait, cet album avait été conçu pour susciter d'un côté des vocations de missionnaires et de l'autre pour on va dire, attirer des jeunes vers le Congo, parce qu'on avait aussi besoin de personnes qui avaient envie d'aller s'investir et de travailler là-bas. Ça, c'était les objectifs. Et donc, il n'est évidemment plus question de ça après l'indépendance du Congo en 1960. Donc, dans les années 60, le Tintin au Congo n'était même pas réimprimé. Il était parti de la collection, mais on ne le mettait plus en avant. Et il a finalement fait son grand retour au début des années 70, quand au Congo même, qui entre-temps ne s'appelait plus ni Congo belge, ni Congo tout court, mais Zaïre, parce que le président Mobutu avait changé le nom de son pays, il l'avait zaïrisé, comme on disait à l'époque. Et donc, c'est la revue Zaïre qui a voulu rééditer Tintin au Congo, qui n'était plus disponible. Et alors, à ce moment-là, Berger s'est dit, tiens, il serait temps de remettre cet album sur le marché, parce qu'il avait un certain succès dans la collection, mais il a été interrogé, évidemment, sur le fait que cet album était daté et que les idées qu'il véhiculait pouvaient être un peu en porte-à-faux avec ce qu'on pensait, avec la vision qu'on avait désormais de l'Afrique. Et là, effectivement, il a publiquement exprimé des regrets sur la manière dont ça avait été fait, en le remettant, évidemment, dans le contexte de l'époque où il l'avait créé, en disant qu'il n'y était jamais allé et que s'il devait refaire Tintin au Congo aujourd'hui dans les années 70, donc, il ne le referait certainement pas comme ça. Ça, c'est ce qu'il a déclaré, oui.
D'autant plus que lorsqu'il a repris Tintin au Congo pour la version en couleur, il avait plus ou moins fait quelques changements, par exemple, notamment vis-à-vis de ce que disait Milou et qui était complètement raciste.
Alors effectivement, dans la version de 31, il y a Milou à l'époque, donc le capitaine Haddock n'existe pas comme personnage, et donc l'alter ego bavard dans la bande dessinée qui répond et qui parle à Tintin, en fait c'est Milou. Quand le capitaine Haddock apparaîtra plus tard, Milou cessera de s'exprimer, il ne parle plus dans les dernières histoires, tandis que à cette époque-là il parle au contraire beaucoup dans les soviets comme dans le Congo. Et donc dans le Congo, il parle un peu comme on dirait le belge colonial de l'époque au café du commerce du coin. Et donc, c'est effectivement assez insupportable de lire parfois des phylactères comme ça aujourd'hui, parce que si dans le contexte de l'époque c'était normal de s'exprimer ainsi, aujourd'hui, c'est ou en tout cas dans l'impression qu'en ont les lecteurs africains, totalement insupportable. Et donc le débat est toujours le même. Il y a une partie qui réclame et qui a réclamé en Belgique, il y a eu un procès à cet égard. Donc ils réclamaient l'interdiction pure et simple du livre et le fait qu'on ne puisse plus le diffuser. Ils ont perdu ce procès. La loi contre le racisme en Belgique n'a pas permis d'en arriver là, parce que le juge a bien expliqué que pour qu'un livre puisse être interdit sous prétexte qu'il contreviendrait à la loi contre le racisme, il faudrait en fait démontrer que l'auteur, donc Hergé ici en l'occurrence, aurait eu une intention méchante et raciste à l'égard ici des Africains, ce qui bien sûr n'était pas le cas. Il n'avait pas d'intention, lui, raciste. Il a, comme il l'expliquait plus tard, il était une éponge de son époque et il a rendu la manière dont les gens s'exprimaient au sujet des Africains, mais il n'avait pas l'intention de faire un pamphlet raciste contre les Congolais. Donc, du coup, les Africains qui réclamaient l'interdiction n'ont pas gagné en justice. Par contre, aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas refaire ce procès de toute façon, ce qu'il demande, c'est une préface. Et donc tout le débat aujourd'hui dans la diaspora africaine, comme au Congo, c'est de dire qu'il faudrait une préface de mise en contexte historique pour rappeler aux gens que c'est une pièce à conviction de ce qu'était le colonialisme des Belges au Congo. Mais il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, en l'ouvrant, peut-être que les enfants ne le savent pas, et même certains adultes non plus, et peuvent prendre ça comme une œuvre d'aujourd'hui, puisqu'elle a été colorisée. Voilà, quand c'était en noir et blanc, on se rendait plus facilement compte que c'était un livre ancien, une BD ancienne ici, en couleur. Certains pourraient croire, en l'ouvrant, que voilà, c'est un livre tout neuf, un nouveau Tintin, et qui ne dit pas de quelle époque à quelle époque il remonte.
Daniel Couvreur, alors c'est quoi cette nouvelle affaire Tintin au Congo ? Pourquoi Moulin Sarr a décidé de ressortir Tintin au Congo ?
Mais parce que, en réalité, donc, il y a un programme de colorisation des albums en noir et blanc d'Hergé. On a commencé par les soviets, qui est le premier album de Tintin. On suit avec Tintin au Congo, qui est le deuxième, et puis il y aura Tintin en Amérique, etc. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé ici, c'est que simplement, il y a eu une discussion, on va dire, entre Moulinsart et Casterman, puisque Moulinsart a les droits sur l'œuvre, mais Casterman a les droits sur la fabrication des albums. Voilà. Et donc, l'album, s'il doit être fait, je parle d'un album physique, matériel, papier, bien, c'est Casterman qui peut l'éditer et personne d'autre. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y avait un débat, faut-il mettre une préface ou non, puisque, comme je viens de l'expliquer, ben, elle est réclamée à corps et à cri par pas mal d'Africains, par une majorité des Africains.
Et pas seulement les Africains, on pourrait comprendre, on pourrait entendre cet argument, non ?
On pourrait entendre cet argument. Alors là, il faut entrer dans une autre réflexion, c'est celle sur la liberté d'expression. Le tribunal avait parlé de ça aussi. Et donc, en fait, le problème est que si on accorde une préface pour quelque raison que ce soit, on contrevient quelque part, contrevenir, j'aime pas le mot, on va dire, on limite la liberté d'expression. Et donc, on pourrait se dire, dès qu'il y a un ouvrage polémique sur un sujet quelconque, ça ne doit pas être sur le racisme, ça peut être sur le fascisme, ça peut être sur la Shoah, ça peut être sur des tas de sujets très très chauds et très compliqués à traiter, eh bien, on pourrait alors être obligé de mettre une préface automatiquement. Et ça limiterait, selon certains, et selon les juges, en tout cas en Belgique, c'est ce qui a été dit, la liberté d'expression.
Et donc, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, moi, je pense qu'il y a effectivement, là, on est sur le plan des principes, alors on limite la liberté d'expression, tout ça se discute allègrement. Je peux l'entendre, mais je trouve que le dommage ici qui peut être fait, on va dire, à la réputation et à l'image de Tintin, est supérieur au fait de se dire, au nom de la liberté d'expression, je ne mets pas de préface. Je pense qu'une préface ici, dans le contexte dans lequel de la société d'aujourd'hui, serait profitable à tout le monde, parce que les historiens pourraient faire la mise en lumière de ce qu'était le colonialisme et de la façon dont Hergé l'a traité, parce qu'il ne l'a pas traité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, au premier degré. Il y a des entorses manifestes à ce que devait être un bon colon ou un Européen, et au regard qui portait sur les Africains. Je n'en prendrai qu'une, c'est l'amitié avec Coco. Coco est un boy dans cette histoire. On ne partage pas son repas avec un boy, c'est impensable à l'époque. On ne le fait pas non plus s'asseoir à côté du chauffeur blanc de la voiture. Toutes ces choses-là sont impensables. Or, chez Hergé, elles sont naturellement dans son histoire. Donc, en fait, on a demandé à Hergé, son éditeur, qui était l'éditeur du Petit XXe, l'abbé Wallé, qui était un fasciste mussolinien, a demandé à Hergé de faire une histoire de propagande pour les missionnaires et pour l'exploitation économique du Congo. Ça, c'était la mission qu'Hergé avait. Mais il s'en est détaché, il a pris quelques libertés, celles qu'il pouvait, parce qu'il était un tout jeune auteur qui ne pouvait pas tout révolutionner comme ça, mais il a pris quelques libertés avec ça, et ces libertés, c'est justement d'introduire une dimension d'amitié et de relations humaines vraies et authentiques entre un blanc et un noir. Ce qui n'était, comme je dis, pas du tout dans les mœurs et pas du tout, on va dire, acceptable au nom de la bien-pensance. Le noir était un inférieur et il ne s'agissait pas d'aller le mettre sur un pied d'égalité. Ce qu'il fait ici quand il, comme je lisais, partage son repas ou sa voiture avec Coco.
Résumons maintenant cette affaire d'aujourd'hui. On est en 2019, c'est les 90 ans de Tintin. Et il y a donc un problème entre les ayants droit, enfin la société Moulinsart, tenue par la veuve d'Hergé et son mari, Nigre Noël, et l'éditeur des albums de Tintin, Casterman, qui lui refuse, si j'ai bien compris, de rééditer Tintin au Congo.
Alors le débat tenait effectivement, est-il opportun ou non pour les 90 ans de Tintin de ressortir un album qui peut faire l'objet d'une polémique sur une question de respect et d'éthique comme on vient de l'évoquer, ça c'était un premier élément. Le deuxième élément, si oui, si on se dit c'est opportun parce qu'on peut saisir l'occasion justement de mettre en lumière le fait que c'est un album qui date de l'époque coloniale, mais ce n'est pas pour ça qu'Hergé était colonialiste lui-même ni raciste texte lui-même et on en explique les raisons. On l'analyse avec des historiens, des philosophes, des sociologues, des ethnologues, que sais-je. Oui, ça pouvait être intéressant. On ouvre le débat à ce moment-là et on ouvre un débat intéressant parce que c'est vrai qu'on n'a jamais fait le... On a du mal à faire le débat sur la vraie nature du colonialisme. Était-ce une mission civilisatrice ou était-ce simplement un nuage de fumée qui cachait une basse exploitation commerciale et capitaliste de ces pays. Le débat est entier encore aujourd'hui, donc ça serait intéressant que Tintin serve à ça, parce que Tintin est une œuvre encore publiée, et donc on peut s'en servir facilement pour pouvoir ouvrir ce débat. Les bouquins qui étaient publiés à l'époque, les autres bouquins des années 30 sur ce sujet, plus aucun n'est édité aujourd'hui, on en a oublié les titres, les noms des auteurs, etc. Voilà, donc là, il y aurait une utilité à ressortir cet album et à montrer aux enfants comment il était le reflet de la pensée occidentale de cette époque. Et donc, toutes ces questions sont extrêmement difficiles à trancher et n'ont pas pu être tranchées rapidement, ni même à l'heure qu'il, elles ne sont toujours pas tranchées. Donc, ça a conduit à ce que l'album qui était prêt ne se retrouve pas finalement édité, sauf à 500 exemplaires destinés à des amis d'Hergé et à la presse.
Et édité par Moulinsart, pas par Casterman.
Absolument, donc édité sous le label édition Moulinsart.
Ils ont le droit de faire ça ?
C'est une question qui peut se discuter. Ici, c'est un album gratuit, donc qui n'est pas commercialisé. Donc là, on entre dans des questions juridiques. C'est vrai que Casterman est donc l'éditeur des albums officiels. Mais ici, puisque c'est un album qui n'est pas dans le commerce, peut-être que oui, ça, moi, je ne suis pas juriste compétent en la matière. Mais par contre, il existe sous forme pour le grand public numérique.
Donc, voilà. Donc ils ont contourné, disons, l'interdiction, entre guillemets, ou ils ont contourné, disons... la polémique, les éditions Moulinsart, en le mettant à la disposition du public en version numérique.
Oui, il est sur donc l'Apple Store et sur Google Play, et donc on peut se procurer cette histoire de cette manière-là.
Alors, et sans préface.
Et sans préface, c'est un paradoxe parce qu'évidemment, les associations noires qui se sont émues de cette ressortie se sont dit, mais finalement. Ce livre polémique se retrouve sur des plateformes où il vise un public par nature plus jeune, par nature moins informé sur ces questions. Et donc, oui, c'est une preuve de modernité dans l'édition, ça c'est sûr. Et ça puisque chez Moulinsart, le discours officiel a été de dire que l'album de Tintin, sous cette forme-là, s'adressait aux générations futures, puisqu'on sait qu'il est important aujourd'hui d'être sur Internet pour toucher d'autres publics. Mais justement, alors la question se repose aussitôt, était-ce le meilleur album pour mettre en avant cette modernité ? Peut-être pas. Et donc, mais là, il n'y a personne pour en débattre. C'est un fait, ça a été décidé, et de toute façon, ça se retrouve aujourd'hui accessible de la manière qu'on sait. Donc voilà.
Alors, première réaction en Belgique, par exemple.
En Belgique, il y a eu un grand débat à l'hôtel de ville, donc à l'occasion de la présentation de cette version colorisée, organisée d'ailleurs par Moulinsart, auquel Casterman donc ne participait pas. Il y avait pas d'intervenant de chez Casterman et auquel il y avait des intervenants d'associations africaines, un juriste spécialisé qui avait suivi le procès. Où le procès fait par le CRAN pour essayer de prouver que Tintin au Congo était raciste, et procès qui avait donc, comme je l'ai dit, été perdu par les associations représentant les Africains. Et donc ce débat a tourné tout entier autour de la question de la préface ou non, et de la remise en contexte indispensable, certains estimant que l'album est quand même raciste, d'autres non, mais tous se retrouvant sur le fait que oui, il serait temps d'y mettre une préface pour que cette question puisse être ouvertement évoquée.
Enfin, vous pensez qu'il y a une possibilité que Casterman et Moulinsart soient en guerre à l'heure où on parle ?
À cause de cette question-là, Je ne pense pas, parce que je ne sais pas si ça, si ça, si c'est, si c'est comment dire, suffisant pour parler de guerre comme élément. C'est simplement un élément sur lequel on n'arrive pas à trouver la bonne porte de sortie vers le haut. Je dirais ça comme ça. Et tant qu'on n'a pas trouvé la porte de sortie vers le haut, ben du coup rien ne se passe et on n'arrive pas à s'accorder sur la manière de présenter ça correctement.
Merci Daniel Couvreur.
Merci.
Avant de retrouver le dessinateur et scénariste Jules, je vous propose d'écouter cette archive. Dans un entretien enregistré en 1979 sur la RTBF, diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 juillet 1993, Hergé revenait sur la genèse de Tintin au Congo.
Alors j'ai fait Tintin au Congo sans grand enthousiasme, je l'avoue. Je l'avoue, je pensais toujours à la suite.
Et vous les referiez aussi bien Tintin au Congo que Tintin au pays des Soviets ?
Ah ben, ce serait très différent, je suppose. Ce serait très différent. Tout a évolué, tout a changé. Moi aussi, j'ai changé. Mais oui, c'était. En fait, Tintin reporter est une espèce de miroir. D'ailleurs, tout journaliste est une espèce de miroir qui reflète évidemment les événements qu'il va regarder. C'est un miroir. Tintin a été le miroir de ce que la plupart des gens pensaient du temps de la Russie bolchevique, j'insiste encore bolchevique, quant à l'idée colonialiste, oui, mais pratiquement tout le monde était colonialiste. Ça ne faisait pas de problème, c'était comme ça. De toute éternité, le blanc avait été créé pour aller apporter la civilisation aux autres et aux noirs, n'est-ce pas ? Il y avait l'exposition coloniale. En France, il y avait notre loterie coloniale. Enfin, bon, tout était à la coloniale. Donc, Tintin n'était pas raciste, il était colonialiste, comme tout le monde l'était à l'époque.
C'était Hergé, en 1979, dans une émission de la RTBF. Bonjour Jules.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça vous inspire, cette nouvelle affaire de Tintin au Congo ?
En fait, moi, ça m'a toujours intéressé, cette histoire de Tintin au Congo, cet album. Et je me pose d'autant plus la question qu'en ce moment, je réfléchis à ces questions parce que, en tant que nouveau scénariste de Lucky Luke, il faut que j'abonde et que je fasse des nouvelles histoires. Et en fait, dans les années à venir, pour moi, ça me paraît très très important d'aborder quelque chose qui avait été complètement passé sous silence dans Lucky Luke jusqu'ici, notamment la guerre de sécession, mais c'est avant tout Lucky Luke et les Noirs, la question de l'esclavage, ce statut-là, ces personnages-là qui n'apparaissent pas. Évidemment, je me rends compte à quel point c'est difficile à la fois les représentations dans la bande dessinée d'humour, dans la bande dessinée de jeunesse. Et donc, il y a plein de questionnements, de lectures, de choses à mettre en œuvre pour pouvoir faire quelque chose de juste, de fin et qui corresponde à aujourd'hui. Ça a été la même chose avec les Juifs. Quand on a fait La Terre Promise, c'était la première fois qu'on mettait en scène des personnages juifs dans Lucky Luke. Cette question des Noirs, justement, de ces minorités qui s'inscrivent dans une histoire dramatique, dans une histoire tragique, dans une histoire d'oppression, correspondait pas à la bande dessinée franco-belge d'humour tout public. Aujourd'hui, le monde a changé, la bande dessinée parle de tout. Donc on peut s'imaginer que Tintin au Congo aurait sa place justement dans ce grand paysage. En même temps, on a compris, tout le monde sait bien qu'il y a un contexte historique de Tintin au Congo de l'époque, et Tintin au Congo n'est que le reflet de la mentalité de son siècle, de ce que le monde dans lequel Hergé baignait. Et donc c'est pas un racisme de l'auteur en particulier, c'est un reflet. Cela étant dit, moi j'ai toujours été, malgré tout, depuis mon enfance, choqué et horrifié par Tintin au Congo. À la fois, c'est un album magnifique, superbement dessiné, avec un rythme, un swing, etc. Les enfants adorent cet album. Mais en fin de compte, ayant eu moi-même des enfants par la suite, l'ayant relu, je me suis absolument rendu compte que, de fait, ce qui était véhiculé dans cette histoire et qui est pris au premier degré par les enfants, qui est pris de manière évidente par ces espèces de mini-éponges que sont ces jeunes lecteurs qui découvrent la bande dessinée comme ça, ça, c'était insupportable de leur transmettre ce qui est véhiculé dans l'album de Tintin au Congo. Alors moi, quand il y a eu des procès en Angleterre, des choses comme ça, pour bannir des librairies, des bibliothèques Tintin au Congo, des bibliothèques jeunesse, j'étais pas pour ça. En revanche, je trouve pas ça du tout normal que dans les écoles en France, par exemple, dans la classe de CP de ma fille, il y avait en accès libre, comme ça, dans la bibliothèque Tintin au Congo. Là, ça pose problème, parce que réellement, il y a un certain nombre de scènes, de propos, de mises en scène, qui, quand elles sont absorbées au premier degré, transportent quelque chose qui n'est plus acceptable aujourd'hui dans l'état d'avancement de notre parcours intellectuel, dans nos sociétés. C'est pas possible, en fait, de faire ça. Donc, qui est un appareil critique, que, en fait, le Tintin au Congo, il puisse être dans la classe, mais pas comme ça à portée de main des enfants. Que ce soit la maîtresse qui puisse leur donner en disant « Voilà, à l'époque, on pensait comme ça. Voilà pourquoi il raconte ça. Vous pouvez le lire. » Mais que ce soit pas, qu'il faut que ce soit médiatisé de la même façon que bah, pour les textes qui seraient les textes antisémites qui ont été publiés avant la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit un certain nombre de textes de cet acabit-là qui aujourd'hui ne sont plus recevables, qu'on puisse y avoir accès, mais avec un appareil critique. Et cette question du fait que ce soit la jeunesse, une publication jeunesse, est absolument primordiale. C'est-à-dire que les enfants, ils sont ultra intelligents, ils peuvent tout comprendre, mais pour ça, il faut quand même leur expliquer.
Merci Jules.
Merci.
À celles et ceux qui nous écoutent tôt le matin, aux autres qui sont abonnés au podcast du Réveil Culturel, merci. On peut également réécouter l'intégralité de cette émission en ligne en passant par franceculture.fr. On se retrouve donc lundi à la même heure avec pour invité Gaël Obiegli. Bon vendredi, bonne fin de semaine.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture et Sorbonne Université vous invitent au forum « L'année vue par les savoirs ». Participation, représentation, information, hashtag le nouvel âge de la politique, algorithmes et démocratie, fake news, concertation, philosophie des réseaux sociaux. Quatre tables rondes animées par les producteurs de France Culture pour comprendre le monde d'aujourd'hui. En partenariat avec La Croix, l'Histoire, Alternatives économiques et avec le soutien de la Chancellerie des Universités de Paris. Venez nombreux, mardi 19 février dès 9h30 dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Plus d'infos, franceculture.fr. Entrée gratuite, réservation obligatoire sur maisondelaradio.fr.
Chaque samedi sur France Culture à 17h, c'est le temps des écrivains avec Christophe Onodibio.
Le temps des écrivains, c'est toutes les semaines un grand entretien d'une heure avec les plus grands écrivains du monde ou ceux qui sont en train de le devenir. Ils prennent le temps à notre micro de parler de ce qui les inspire, les obsède, de leur imaginaire et de leur perception du monde dans lequel nous vivons.
Invité ce samedi Stéphane Malandrin pour un conte philosophique rabelaisien. Son héros dévore les livres au sens littéral du terme, c'est le mangeur de livres. Lui nous régale avec la vérité sur Dix Petits Nègres. Il y déconstruit pièce à pièce toute l'enquête. Pierre Bayard. Le temps des écrivains, ce samedi à 17h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Le débat ouvert par les Gilets jaunes sur les inégalités doit amener l'exécutif à changer de politique pour le logement. Voilà ce qu'estime la Fondation Abbé Pierre ce matin dans son rapport consacré à l'année 2018, une année marquée par la persistance de 4 millions de mal logés en France. Des candidats en hologramme sillonnant la France en camion. La campagne européenne de la France insoumise débute vers la France des oubliés, voilà ce que dit le parti. Nous étions au lancement de l'événement hier soir, reportage à suivre. Et puis nous analyserons dans ce journal le changement de position du gouvernement français vis-à-vis des djihadistes détenus en Syrie, les djihadistes français. Ils pourraient être rapatriés puis jugés. Et l'on commence donc par ce rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre. Il est présenté aujourd'hui, rapport sur le mal logement, qui concerne, je vous le disais, 4 millions de personnes en France, des personnes à ne pas oublier, car si la crise des Gilets jaunes a permis de mettre en lumière les difficultés d'une partie de la population qui travaille et ne peut pas vivre de son salaire, la situation des personnes les plus pauvres, elle, est passée sous silence. C'est ce qui inquiète le directeur général de la Fondation Abbé Pierre, Christophe Robert.
Rarement il y aura eu autant de débats, de prises de parole directes des personnes pour montrer à quel point les personnes souffrent de la précarité, souffrent de la pauvreté, à quel point le logement est déterminant dans les dépenses globales des ménages. Pour certains, c'est 40-50% de leurs ressources consacrées au logement, à quel point certains n'arrivent plus à se chauffer. Ça ne peut pas ne pas conduire à des changements d'orientation, de politique. Par contre, notre crainte à la Fondation Abbé Pierre, c'est qu'il y ait des réponses qui soient apportées aux classes moyennes inférieures, aux classes populaires, mais que les plus pauvres, les grands précaires, ceux qui n'ont pas la force ou parce qu'ils sont occupés à survivre, ne vont pas se manifester, battre le pavé autour des ronds-points, que cela soit les grands oubliés de cette séquence. Et c'est vrai que dans certaines réponses apportées par le président de la République, le gouvernement, la prise en compte de ceux qui travaillent, par exemple, mais dont les ressources du travail ne suffisent pas à s'en sortir, est agrandie. On dit, on va accélérer la prime d'activité, et c'est bien. Mais l'accélération de la prime d'activité, c'est pour ceux qui travaillent. Quid de ceux qui sont très éloignés de l'emploi ? Quid de ceux qui sont dans des situations tellement difficiles que c'est les besoins de première nécessité qui comptent ? Est-ce que ceux-là vont être dans le viseur de cette séquence ? Ça reste pour nous encore une inconnue, mais il le faut impérativement pour des raisons de cohésion sociale du pays.
Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre, il répondait à Fiona Mogadam. Alors parmi les personnes sans domicile actuellement en France, celles qui sortent d'institutions sont largement surreprésentées. D'anciens jeunes de l'aide sociale à l'enfance par exemple, d'anciens détenus aussi. Des détenus qui en prison ne sont pas mieux logés pour certains. En Guyane par exemple, la procédure d'urgence a été enclenchée face à une situation de surpopulation désastreuse. Une surpopulation qui entraîne aussi de mauvaises conditions de travail pour les surveillants dans les prisons. Hier soir, entre 70 et 80 surveillants pénitentiaires venus de toute la France se sont réunis dans l'Essonne devant la prison de Fleury-Mérogis. Une grève pour demander une revalorisation salariale car un an après le grand mouvement de blocage dans les prisons françaises, rien n'a changé, ou presque, Maxime Fayol.
La situation continue de se détériorer dans les prisons. Le record du nombre de détenus a encore été battu en décembre avec plus de 71 000 personnes. Des conditions de détention catastrophiques à de nombreux endroits et des surveillants découragés selon Thibaut Capel, le secrétaire local FO à Fleury-Mérogis.
Quand vous regardez ce qui se passe sur la maison d'Angers il y a encore quelques temps où un collègue s'est fait égorger, ou quand vous regardez ce qui s'est passé dans le tribunal de Tarascon où c'est un commando qui est venu chercher à l'arme lourde un détenu avec des tirs quand même qui ont été jusqu'à hauteur d'homme sur le pare-brise du véhicule, vous êtes en droit de vous poser la question, qui ferait ce métier-là pour crever, quoi, surtout pour pas un rond.
Une situation dénoncée depuis plusieurs années par la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan.
Si on cite Fresnes, comme Nanterre, comme Fleury, il y a actuellement un surveillant dans une coursive de 100 détenus. Ça veut dire qu'il passe son temps à ouvrir et fermer les portes et qu'il ne peut plus rien faire d'autre et surtout ne peut pas avoir le moindre contact avec les détenus.
Améliorer les conditions de détention va permettre d'attirer de nouveaux candidats au concours de surveillants, surtout si l'État accepte de mieux les rémunérer, estime Thibaut Capel.
Quand vous regardez les chiffres de recrutement, c'est simple. 20% des personnes qui s'inscrivent au concours de surveillants pénitentiaires sont présents à l'examen. 80 autres ne viennent pas. Il est peut-être temps que la ministre arrête de jouer avec sa calculatrice, arrête de voir combien ça va coûter. Elle le sait en plus combien ça va coûter. Ça va coûter 86 millions d'euros de budget par an. Quand on voit que l'État peut dépenser des milliards sur un coup de tête, il est peut-être temps de sauver la pénitentiaire et de mettre le chéquier sur la table.
Depuis 2 ans, la rémunération nette des surveillants a augmenté de 4%, insuffisant pour les syndicats qui veulent le passage de la catégorie C à B de leur statut de fonctionnaire.
La loi alimentation entre en vigueur aujourd'hui, 1er février, et les prix de centaines de produits vont augmenter. Et cela à cause du relèvement à 10% du seuil de revente à perte dans les grandes surfaces. De nouvelles informations sur Alexandre Benalla. Le site d'information en ligne Mediapart a publié hier le contenu d'une conversation entre l'ancien collaborateur de l'Élysée et Vincent Crase, gendarme réserviste également impliqué dans les violences du 1er mai dernier. La conversation enregistrée date du 26 juillet. Alexandre Benalla se targue du soutien du président de la République, qu'il appelle d'ailleurs patron. Mediapart affirme également qu'Alexandre Benalla aurait passé des contrats avec un oligarque russe proche de Vladimir Poutine alors qu'il était encore en poste à l'Élysée. Nous en venons au lancement de la campagne de la France insoumise pour les européennes. C'était hier soir. Et revoilà les hologrammes. Les 79 candidats ont été présentés ainsi. Jusque-là, l'événement était connu sous le nom de code Opération 471, en référence au numéro de la norme européenne sur le port du gilet jaune. Mais la France insoumise a aussi utilisé ce chiffre pour montrer à quel point le parti serait mobile pendant sa campagne. Ces camions vont sillonner 471 communes d'ici la fin du mois de mai. Sophie Delpont a assisté au lancement de la campagne hier soir.
Une opération de communication orchestrée comme un lancement sur orbite. Alors que quatre camions sont stationnés devant le chapiteau, c'est Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise aux élections européennes, qui dévoile la signification du fameux code 471 devant des dizaines de militants invités.
Ces camions, ils vont nous projeter dans le futur. It's a revolution. Mais le mieux pour ça, c'est que je vais passer la parole à Jean-Luc Mélenchon.
Bonjour, mon hologramme est heureux de vous retrouver.
Dans le sillage de l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon, d'autres hologrammes se succèdent au fond des camions, ceux des candidats aux élections européennes.
Nadège Montout, infirmière à Pointe-à-Pitre.
471 Jean-Luc Mélenchon, 471 Leila Chebbi, 471 fois nos candidats qui vont parcourir la France.
Sur le fond, cette fois, Manon Aubry décline les priorités du programme de la campagne.
Transition écologique, lutte contre l'évasion fiscale, ce sont et ce seront parmi les 12 combats que nous mènerons demain dans le Parlement européen.
Ce nouveau déploiement technologique doit séduire les jeunes tout en faisant écho au succès de la campagne présidentielle et attirer vers ses camions des curieux, notamment des abstentionnistes, jusque dans les territoires les plus isolés. Une manière de ratisser le terrain occupé par les gilets jaunes. Et dans un ultime clin d'œil, Manon Aubry rappelle que 471, c'est le numéro de la directive européenne sur le port des gilets jaunes.
Sophie Delpont. Faut-il rapatrier et juger en France les djihadistes présumés retenus en Syrie par les forces kurdes? Des forces kurdes qui sont probablement incapables de les garder ou de les juger. Ils seraient, ces djihadistes français, 150 selon la ministre de la Justice. 150, dont 48 enfants, dit Nicole Belloubet, qui précise que ces données ne sont pas encore stabilisées. Le gouvernement se dit prêt à les rapatrier. C'est un changement, Mathieu Laurent.
Depuis un an et demi, les forces kurdes demandent aux autorités françaises d'aider au rapatriement des djihadistes présumés et de leurs familles. Depuis les attentats en France, les services de renseignement ont accumulé des éléments à charge. Certains terroristes ont été jugés par contumace, beaucoup sont identifiés. La justice, qui déborde d'outils juridiques, est prête à œuvrer, rien de nouveau. Mais cette fois, la sonde lancée par le gouvernement l'oblige à se prononcer sur le sort à réserver aux enfants et à veiller à l'application du droit international, qu'escamote volontiers certains élus de droite favorables à l'élimination des combattants de Daesh. Nadim Houri est chargé du programme Lutte contre le terrorisme à l'ONG Human Rights Watch.
Ils sont en train d'appeler à des crimes de guerre. Parce que, soyons très clairs par rapport au droit. Dès le moment qu'une personne est détenue, quels que soient les actes dont cette personne est accusée, on ne peut plus la tuer. La tuer serait commettre un crime de guerre, une exécution non juridique. Donc il faut laisser de côté la question de la démagogie. Il faut aussi arrêter de faire peur aux gens.
Une fois cette surenchère invalidée, il reste les complications que soulève le transfèrement en Irak où la peine de mort est appliquée de ces recrues combattantes de Daesh et leur profil. Marc Ecker est chercheur à l'Institut français international.
Le cœur de la polémique, c'est que certaines de ces personnes sont restées en zone syro-irakienne pendant longtemps, après les attentats du 13 novembre 2015, jusqu'à après la bataille de Mossoul, jusqu'à après la bataille de Raqqa, et on peut considérer donc que ce sont des durs parmi les durs.
Le gouvernement a donc fait le choix sous la contrainte de les rapatrier et de les condamner, plutôt que de les perdre de vue, non moins conscients qu'ils représenteront un danger dans des prisons surpeuplées et encore pauvres en quartiers étanches de prise en charge de la radicalisation.
De la pluie pour tout le monde. Météo France annonce de fortes averses ce vendredi qui vont gagner le nord et les Pyrénées à la mi-journée. Les températures remontent un peu avec 2 degrés ce matin à Lille, comptez 5 à Paris, 7 degrés à Bordeaux, 13 à Marseille. 6h40, bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Vous nous rejoignez pour votre journal des idées sur France Culture ce matin. Le grand débat national, Jacques, a débuté il y a 2 semaines et demie et ça tombe bien, ou peut-être pas, en tout cas, le débat fait débat.
Et oui, dans l'inépuisable conversation démocratique qui s'est ouverte en France depuis le 17 novembre, écrit Albert Augien dans les pages idées de Libération, il n'est pas d'argument fustigeant l'irrationalité ou l'incapacité politique des citoyens qui n'étaient opposé aux revendications des troupes jaunes fluo. Le sociologue plante le décor et prévient qu'il va falloir s'y faire. Un nouvel ordre est en gestation dont témoigne la multiplication de ces pratiques politiques autonomes de citoyens qui entendent directement et à l'écart des organes officiels de la représentation peser dans l'avenir du monde où leur vie s'inscrive. Pour lui faire place, il faudrait adopter une toute autre façon d'envisager les relations politiques, davantage d'humilité et d'intelligence des raisons d'autrui du côté des gouvernants, en rabattre sur le dogmatisme chez les idéologues et développer le sens de l'écoute et du débat argumenté côté protestataire. Aujourd'hui, les conditions d'un grand débat national ne sont pas vraiment réunies, selon Julien Talpin dans le mensuel Alternatives économiques. Le chercheur en sciences politiques, co-directeur du groupement d'intérêt scientifique Démocratie et Participation, a observé sur le terrain un sentiment croissant de perte de souveraineté que reflète l'importance des questions démocratiques dans les revendications des Gilets jaunes. Pour qu'un débat permette à chacun, et en particulier aux classes populaires, de s'exprimer, il ne suffit pas de convoquer une grande assemblée qui est un modèle souvent peu inclusif, écrit-il. Jean-Pierre Le Goff, dans Le Figaro, estime que le grand débat a des allures de boîte à idées managériale pour améliorer la productivité et la qualité. Il renvoie à la société l'image d'un État qui demanderait aux citoyens de lui faire des propositions pour améliorer sa politique et consolider ses fonctions. Le message est paradoxal et brouillé dans une situation anxiogène où les citoyens se demandent sur quoi cette crise va déboucher. Réaliste ou cynique, d'autres arguments plaident cependant en faveur du rôle de catharsis que peut jouer un tel débat dans le contexte actuel par une prise de parole qui rompt avec la violence et les exactions, permet de respirer un peu en attendant les élections européennes qui ne sont pas loin. Cela dit, le débat peut enfler comme une bulle avec l'illusion que l'on a traité les problèmes parce qu'on en a beaucoup parlé. Et en prenant le risque de susciter des attentes tous azimuts, impossibles à satisfaire, le gouvernement pourrait se retrouver confronté à un douloureux retour au réel avec une méfiance accrue envers la politique et l'État. Le sociologue, spécialiste notamment de l'idéologie du management, Jean-Pierre Le Goff, donc relève par ailleurs que la volonté affiché de poursuivre la politique engagée avec des accents d'évidence déconsidère d'emblée ses adversaires. Le débat politique tend alors à se confondre avec des leçons de gestion en économie et la politique se dissout dans une mécanique gestionnaire sophistiquée dont les responsables s'efforcent tant bien que mal de faire comprendre le mode d'emploi. Dans Le Monde, Thibault Genouville se demande où sont les jeunes alors que l'abstention des jeunes a atteint un nouveau record en 2017 avec moins de 20% des électeurs de moins de 29 ans ayant voté, leur participation aux échanges sera scrutée de près par un gouvernement soucieux de renforcer son lien avec les Français. Or, jusqu'à présent, les jeunes, ils brillent par leur absence. Renaud Georges, le maire LRM de Saint-Germain-au-Mont-d'Or, dans le Rhône, qui accueillait le 16 janvier la première réunion citoyenne du Grand Débat National, évoque une génération plutôt smartphone et réseaux sociaux que troquets et réunions publiques, qui ne s'intéressent à la vie locale qu'à partir du moment où ils ont des enfants. Et Charles Fournier, vice-président de la région Centre-Val-de-Loire, en charge de la transition écologique et citoyenne, ajoute deux facteurs plus politiques, la faible représentativité des jeunes dans le paysage politique et la nature des sujets, trop généraliste et pas assez contextualisée en fonction de la jeunesse. Le mouvement Allons Enfants, qui s'emploie à impliquer les jeunes en politique, compte bien saisir l'occasion pour se faire entendre. Les jeunes souhaitent être associés aux décisions dont ils subiront les conséquences, affirme Pierre Cazeneuve, le fondateur du mouvement âgé de 23 ans. Parmi les sujets mobilisateurs, le développement durable et l'évolution des institutions. Denis Saint-Amand a collecté pour le site d'information et d'analyse AOC quantité de tags et slogans des Gilets jaunes dans l'esprit potage de mai 68. Le grand débat national a inspiré ce genre de détournement. Ce n'est qu'un débat, continuons le combat. La grande débâcle. Vivement le grand dégât national ou encore le charmant « On préfère les grands ébats aux grands débats ». Ça vous fait rire, Xavier Martinet, bonjour.
Beaucoup, bonjour Jacques Meunier.
À 6h45 sur France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux. Au sommaire aujourd'hui, le traité Union Européenne-Japon.
Et oui, c'est l'entrée en vigueur aujourd'hui du JEFTA, donc ce traité de libre-échange entre l'Europe et le Japon. C'est tout simplement le plus gros accord commercial mondial en termes de marché, on le dit innovant, et pour certains, il pourrait même contribuer à la paix mondiale. Alors accord commercial et signal politique en pleine guerre commerciale avec la Chine et les États-Unis. Bonjour Sébastien Jean.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone ce matin. Vous êtes le directeur du CEPI, Centre d'études prospectives et d'information internationale. Alors juste deux chiffres, 30% du PIB mondial pour 635 millions d'habitants ou de consommateurs. La plus grande zone commerciale jamais négociée, avait dit Cecilia Malmström, la commissaire européenne. Des négociations assez rapides, signées ou en tout cas bien entamées en juillet 2017, juste après le début des menaces américaines. Est-ce que ça veut dire que c'est d'abord une tactique défensive cet accord?
Alors, bon, il faut d'abord le mettre en perspective, c'est-à-dire que cette négociation a commencé il y a longtemps, en fait, c'est-à-dire que le mandat de négociation européen a été donné par les États membres à la fin de l'année 2012. Ensuite, ce qui est effectivement évident, c'est que l'agressivité commerciale des États-Unis, de Donald Trump, a poussé les États-Unis, le Japon et l'Europe, pardon, à accélérer les négociations et à les finir rapidement, effectivement, au cours de l'année 2017, d'où la signature récente et l'entrée en vigueur aujourd'hui. Donc il y a aussi un peu d'opportunisme, dans le sens où la négociation qui a été entamée a été utilisée dans le cadre présent de tensions commerciales.
Et on a beaucoup dit aussi, encore une fois, le cadre des négociations, que c'était Shinzo Abe qui avait surtout poussé pour cet accord à un moment. Ou alors, est-ce que c'est pas l'Union européenne qui regrettait dans son exposé des motifs, là, pour expliquer pourquoi elle veut cet accord, que le Japon est le troisième économie mondiale, mais seulement à l'époque le septième partenaire commercial de l'Union européenne? Il y avait un manque de débouchés européens?
Un manque de débouchés européens, peut-être dans une certaine mesure. Je crois qu'avant tout, il y a surtout une très grande distance entre les deux pays. C'est une évidence. C'est-à-dire que on a un accord qui est en effet est gros en termes des masses économiques qu'il relie, mais elles sont en même temps très distantes. Donc, l'Europe, l'Union européenne et le Japon, c'est effectivement conjointement 30% du PIB mondial, mais la relation bilatérale, c'est moins d'1% du commerce international. Donc, voilà, il faut aussi remettre les choses à leur place. C'est qu'un accord qui, je pense, est important politiquement et stratégiquement pour les deux partenaires, il ne va pas non plus et bouleverser leur commerce international. D'ailleurs, on a souvent parlé de cet accord comme l'accord voiture contre fromage, voiture japonaise contre fromage européen.
Oui, parce qu'il y a cette sorte de troc, on va en dire un mot. Alors, est-ce que ça veut dire justement que cet accord le plus important pourrait avoir un impact très faible finalement? Il y avait ce chiffre de Jean-Claude Juncker qui disait que chaque milliard d'euros exporté par l'Union européenne apportait 14 000 emplois en retombée. Là, il parle de plus 16 à 24% d'exportation, ce qui donnerait plus 220 000 à 380 000 emplois supplémentaires en Union européenne. Sur ce plan-là, c'est pas négligeable ou c'est pas grand-chose?
Je pense que l'impact macroéconomique il est limité et l'évolution du marché de l'emploi en Europe ne dépend pas de façon primordiale de ce type d'accord. Il me semble que si cet accord est important, ça n'est pas tellement par le volume de commerce qu'il peut créer, c'est avant tout parce qu'il crée un partenariat avec le Japon, qui est un partenaire important, notamment parce que c'est notre plus puissante alliée qui partage avec nous nos valeurs d'être à la fois une démocratie libérale et un pays qui soit attaché à un commerce fondé sur les règles entre économies de marché. Aujourd'hui, c'est le le plus puissant de nos partenaires qui partagent ces valeurs.
Oui, c'est ce qu'a mis en avant aussi l'Union européenne. Alors, pour l'accord lui-même entre partenaires, quel équilibre global il peut y avoir si l'Union européenne, comme elle le dit, a fait passer ses exigences et que le Japon semble avoir lui gagné sur ses principaux marchés forts, hein. Vous parlez des voitures, il y a aussi qui sont concernés les circuits intégrés, les pièces détachées, ce fameux troc fromage contre voiture, finalement, ça en fait un accord assez classique et surtout équilibré selon vous ?
On verra, mais je pense que sur le principe, il pourrait l'être, en effet. Clairement, le Japon a une capacité exportatrice très importante dans l'automobile, et donc le droit de douane de 10% que l'Union européenne impose sur ses importations de voitures était un enjeu commercial pour lui. Pour l'Union européenne, c'est effectivement plutôt dans l'agroalimentaire que ça se passe. Maintenant, ce qui est important aussi pour l'Europe, c'est d'avoir obtenu que le Japon s'aligne sur les normes internationales dans un certain nombre de secteurs, notamment celui de l'automobile d'ailleurs, mais également celui de la pharmacie par exemple, c'est-à-dire sur des systèmes de normes qui sont beaucoup plus facilement compatibles avec ce qui se fait en Europe. Donc ça permet de faciliter les ventes européennes au Japon et ça permet aussi de plus peser conjointement sur la détermination des normes internationales.
Oui, puisqu'il y a un chapitre entier qui est consacré à l'accord de Paris, c'est assez inédit pour, je crois, un accord commercial. Il y a eu quelques critiques concernant l'application justement du respect de cet accord de Paris, puisque c'est l'article 16.4.5 qui dit « sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ». Il y a eu des interrogations sur la justice sociale de l'accord, des critiques des ONG. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces inquiétudes ? Elles sont fondées ?
Écoutez, je crois que d'un côté, en effet, c'est un accord qui innove dans le sens où c'est le premier à faire explicitement référence aux obligations dans le cadre de l'accord de Paris, ce qui est une bonne chose, il me semble. Et dans le même temps, il y a un peu de frustration par rapport à l'idée qu'il faut aller plus loin. Donc, je crois qu'on peut à la fois reconnaître qu'il y a des innovations, un premier pas, mais aussi qu'il y a encore du chemin à faire, parce que les obligations, en l'occurrence, ne sont pas associées au système standard de règlement des différends. Donc, en fait, elles sont difficilement opposables. Donc, il y a sans doute matière à aller plus loin dans les prochains accords de l'Union européenne. Et il faut aussi reconnaître que c'est difficile et que c'est un pas qu'a fait l'Union européenne, une innovation, en espérant que ça soit un pas avec d'autres qui suivront.
Oui, ce fameux organe de règlement des différends qui est en jeu dans de nombreux accords. Pour terminer sur l'enjeu commercial, est-ce que, une fois cela dit, pour l'Union européenne, ce ne sont pas seuls les marchés préférentiels ou de niches qui seraient intéressés ? On parle du fromage, on voit que les rares articles qui en parlent en UE sont du côté de l'Italie, principal exportateur, dont le Japon est principal marché exportateur. L'Allemagne aussi, qui a une bonne place d'exportation au Japon. C'est pour ça que je parle de marché de niche.
C'est un accord qui prend aussi une importance particulière dans le cadre de déstabilisation du système commercial multilatéral dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est-à-dire ça a une sorte de valeur d'assurance. Avec cet accord, on a défini un cadre contractuel en fait qui sécurise la façon dont on peut commercer avec le Japon. Si jamais effectivement on a une déstabilisation de l'OMC, plus d'incertitude dans les règles du commerce international, ça prendra une valeur importante, je crois, pas seulement sur les niches, sur l'ensemble de nos échanges.
Et de ce point de vue-là, alors, un accord qui offre un signal, on pourrait dire, positif, eu égard au respect, effectivement, d'un système régulé. Un accord expérimental également, Cécilia Malmström avait dit qu'il aurait pu servir de modèle à un accord qu'on aurait pu dire de grande proximité entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Ça vous semble une possibilité?
C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du fait que les pas qui ont été faits, par exemple dans le domaine de l'environnement, peuvent servir de modèle à d'autres. C'est-à-dire qu'en permanence, il y a une évolution de ce qui est finalement le modèle sur lequel l'Union européenne construit ces accords commerciaux. Et donc, ce qui a été fait là peut servir à d'autres accords, sachant que, comme je disais tout à l'heure, il y a des innovations, mais il y a encore probablement beaucoup à faire pour que ce soit pleinement satisfaisant.
Et dernière chose, est-ce que aujourd'hui, ça n'est pas le Japon qui est le principal bénéficiaire de cet accord, au moins en termes symboliques? Il a la présidence du G20 cette année. Shinzo Abe était venu à Davos en train, d'ailleurs, en respectant les objectifs écologiques. Avec cet accord, il est un peu au cœur du système économique mondial, là, c'est ce qu'il montre.
Je pense qu'en termes politiques et économiques, ça renforce plutôt la main des deux zones concernées, notamment vis-à-vis des États-Unis d'ailleurs. Donc, je ne sais pas si effectivement, symboliquement, il y a aujourd'hui la présidence japonaise du G20. Il y a la France de son côté à la présidence du G7 cette année. Je pense que c'est plus un partenariat de long terme, même si on peut réfléchir aux bénéfices dans l'immédiat, l'important n'est pas là.
Et est-ce que ça montrerait une limite à la tactique de Trump à la guerre unilatérale? Ça marquerait un point de ce point de vue-là?
Disons que ça renforce un petit peu la main de l'Union européenne et du Japon par rapport à Trump dans ce bras de fer, hein, parce qu'on est quand même dans un bras de fer commercial avec eux, en montrant aux États-Unis que si vraiment ils essaient de désorganiser complètement, de mettre la pression sur leurs partenaires, ben leurs partenaires peuvent s'entendre entre eux. Et ça, je pense que ça fait quand même un peu évoluer le rapport de force avec eux. Ça ne fait pas tout, mais ça permet d'aider un peu.
Oui, ben voilà pourquoi on parle de signal politique. Merci pour vos explications, Sébastien Jean. Merci directement. Directeur du CEPI, et bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Les Estivants, le nouveau film de Valeria Bruni-Tedeschi. Dans une grande maison de la Côte d'Azur, Anna retrouve sa famille pour les vacances.
Il arrive quand, Luca?
Mais il arrive ce week-end.
Au milieu de l'effervescence, Anna doit gérer sa récente rupture. Peu à peu, des rapports de classe, de force et de désir vont ébranler l'harmonie qui règne dans cette maison.
On croit arriver au paradis, c'est l'enfer.
Vous savez, chacun fait sa vie dans cette maison.
Les Estivants, avec Pierre Arditi, Valeria Golino, Noémie Lvovsky, Yolande Moreau et Valeria Bruni-Tedeschi. Actuellement au cinéma. Un film France Culture.
Nouveau sur France Culture, dès dimanche, l'expérience. Aurélie Charron.
La première de nos expériences est collective. Amélie Perrault a organisé des ateliers de création radiophonique à Lesbos avec les réfugiés bloqués sur l'île. Ce sont eux qui ont capté les voix, les sons et inventé leur radio. C'est une série en 7 épisodes. Les 3 premiers sont diffusés à l'antenne. L'intégralité est sur le site de France Culture.
Radio et Lesbos. Radio et Lesbos.
Vivez l'expérience chaque dimanche sur France Culture à 23h, à prolonger sous tous les formats sur franceculture.fr.
Et à 6h57 sur France Culture, autre expérience collective, ce sont les matins avec Guillaume Herner. Bonjour
Guillaume. Et avec vous aussi, Xavier Martinet, et vous tous que je salue.
Et puis cette grande interrogation, puisque la Chandeleur c'est bientôt, eh bien comment va-t-on mettre du Nutella sur les crêpes?
Oui, je sais, l'expression originale est du beurre dans les épinards, mais qui a envie de mettre du beurre dans les épinards? Je veux dire, qui a envie de manger des épinards? Ce que l'on aime, c'est évidemment le gras salé ou sucré, autrement dit le Nutella par exemple. Et voilà le Nutella qui augmente aujourd'hui, plus exactement un certain nombre de produits alimentaires ne pourront plus bénéficier de promotions comme auparavant. Et évidemment, tout cela nous rappelle les émeutes du Nutella. Vous vous souvenez, c'était il y a exactement un an, jour pour jour, en janvier 2018. Des consommateurs s'étaient battus pour profiter d'une promotion sur le Nutella organisée dans certains hypermarchés. Ces scènes étaient annonciatrices, on s'en rend compte maintenant, de l'épisode des Gilets jaunes. On y voyait en acte les conséquences d'un manque de pouvoir d'achat. Je me souviens d'ailleurs de l'interview d'une anthropologue. À cette époque, on lui avait demandé si de telles émeutes auraient pu être causées par une promotion sur les pots de cornichons, et elle répondait « Par la négative, réponse raisonnable, une promotion sur les épinards à la vapeur n'aurait pas déclenché non plus de scènes d'hystérie. Il va falloir s'y faire. Même si l'on nous met en garde contre le gras et le sucre en permanence, rien n'est meilleur que le gras sucré, et qui mieux que le Nutella peut incarner ce délicat mélange de sucre sucré, de gras grassouille. Les émeutes du Nutella nous révèlent aussi ce que cela veut dire, être pauvre dans une société de consommation, manquer de pouvoir d'achat dans une société d'abondance, au point de se battre pour des pots de Nutella. Elles montrent également la manière dont ces gens modestes ont été infantilisés et partant ridiculisés par ces supermarchés, puisque l'on avait monté à l'époque cette opération en cachant ces pots de Nutella à la manière d'une chasse au trésor dans les rayons, mais ce trésor est et du Nutella. Eh bien aujourd'hui, le Nutella va être vendu plus cher et comme toujours, l'enfer est pavé de bonnes intentions pour préserver les marges des agriculteurs auprès de la grande distribution, pour permettre aux agriculteurs de mettre du beurre dans les épinards quand ils vendent des épinards. Bref, pour la chandeleur prochaine, il ne nous restera plus qu'à tester les crêpes aux épinards.